Bravo, bravo, bravo.
Mon prochain invité va tenter d'insuffler l'effet phénix, j'appelle ça l'effet phénix, au parti politique duquel il vient d'être couronné chef. Il va tenter de faire renaître de ses cendres, t'as pas-tu, le Bloc québécois. On parle ce matin au nouveau chef Yves-François Blanchette. Bonjour Yves-François.
Bien bonjour, monsieur.
Salut Yves-François.
Je vais reprendre l'expression effet phénix.
Ah oui, c'est fort.
Bon, si vous voulez bien, je vais vous vouvoyer, monsieur Blanchette, même si on s'est allègrement tutoyé dans les corridors de la station. Je trouve que ça fait plus sérieux. Ça marche-tu?
C'est comme vous voulez.
Parfait.
Pas de problème avec ça, je m'en accommode aisément.
D'accord, je vais droit au but. C'est quoi votre plan pour redonner vie au Bloc québécois, qui, on doit le dire, est un petit peu agonisant à la suite du passage de Martine Ouellet?
Hey, c'est plate, ça sera même pas spectaculaire. Parce que le plan, à l'origine, à la base, là, ça va être d'aller faire du financement, de monter des organisations dans chaque circonscription du Québec, d'aller rencontrer les médias de toutes les régions au Québec parce qu'ils ne, soit ils ne me connaissent pas du tout, soit ils ne m'ont pas vu depuis un certain temps, mm-hmm. sauf peut-être le 93, mais il y en a beaucoup d'autres qui me connaissent entre peu, pas ou pas encore assez. Et profiter du fait que pour l'instant, au moins à l'intérieur du parti, il y a un enthousiasme surprenant, un ralliement, une unité, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans ce parti-là. On commence demain. Après ça, bien sûr, c'était, c'est comme tout le monde. On fait le tour des festivals, on rencontre les gens, on s'arrange pour que ce soit à la fois festif et pas trop nono comme opération. Puis cet automne, on est direct en campagne électorale. Donc, on va effectivement faire un congrès à la fin février, peut-être au tout début mars. Ce congrès-là va redéfinir ce qu'on est pour interpeller mieux une autre génération qui peut-être se reconnaît moins ou n'a pas connu autant les Lucien Bouchard ou les Gilles Duceppe de ce monde. On veut parler à d'autres mondes, on veut parler plus d'environnement, on veut aborder beaucoup des dossiers qui sont importants au Québec ou pour le gouvernement du Québec. Après ça, c'est sur le terrain. Fait qu'il va falloir juste bien faire notre job normal parce qu'on n'a pas le temps de réinventer la roue, nous autres.
Vous me parlez d'unité au sein du parti, puis je dois vous avouer que vous m'envoyez un peu surpris parce que il y a une espèce d'incessant débat autant au Bloc qu'au Parti québécois, essayer de savoir est-ce qu'il faut profiter de chaque tribune pour parler de souveraineté tout le temps, ou est-ce que chaque chose en son temps, ben on va parler de souveraineté quand ce sera opportun. C'est comme une espèce de scission qui existe là dans les clans souverainistes. Vous situez où par rapport à ça?
En fait, je dirais, vous êtes la démonstration du travail qu'on a à faire parce que je crois que depuis un bon moment déjà, je dirais quelques mois, ce débat-là n'a plus cours. D'abord, tous les 10 députés qui sont allés se promener dans 10 partis de une personne plutôt qu'un parti de 10 personnes là, sont tous revenus. Le caucus fonctionne bien. Les circonscriptions qui étaient encore occupées, dans le sens où il y a quand même une dizaine de comtés pas vraiment prenables, où il n'y a pas vraiment d'organisation. Ce monde-là est solidaire. Ce monde-là, on presque tous recommencé à travailler ensemble. Et le débat, c'était est-ce qu'il faut parler d'indépendance ou est-ce qu'il faut parler des intérêts du Québec? Et moi, j'ai tranché ça il y a un bon moment déjà. On va remplacer le « ou » par un « et ». On va parler d'indépendance et des intérêts du Québec. D'une part, parce que c'est très clair que c'est pas nous, à l'intérieur des 4 prochaines années, qui allons réaliser l'indépendance. Ça va se faire à Québec avec un débat qui va aussi être animé par les partis souverainistes de l'Assemblée nationale. Et les intérêts du Québec, pourquoi? Parce qu'un député qui ne porte pas les dossiers de ses électeurs, un parti qui ne porterait pas les dossiers du Québec à la Chambre des communes d'Ottawa, ferait juste pas sa job fondamentale. Ouais. Si tu n'es pas capable d'aller chercher la confiance des gens en réglant ou en faisant avancer leur dossier, tu vas faire comment pour aller chercher la confiance des gens pour réaliser l'indépendance?
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disaient et qui disent encore que le Bloc, finalement, ça sert à rien parce qu'il peut pas prendre le pouvoir. Ça fait depuis la création du Bloc, on entend ça. Qu'est-ce que vous leur répondez?
D'abord, on vote aux élections, on vote pas pour un ministre, on vote pour un député ou une députée. Le pouvoir, il est dans les mains des élus. Envoyer une délégation de 30 députés du Bloc québécois à Ottawa, comme on l'a fait pendant pas mal d'années, et le Québec a eu beaucoup plus d'influence à la Chambre des communes dans les grandes années de M. Bouchard ou de M. Duceppe qu'il n'en a maintenant. Pourquoi? Parce qu'un ministre de Justin Trudeau fait ce que Justin Trudeau y dit, de la manière que Justin Trudeau y dit, et l'influence centrale du Parti libéral, du Parti conservateur, même du NPD, mais c'est Toronto. Un député du Bloc québécois, ça parle juste pour le Québec. Ça ne prend ses directives de personne au Canada. Si c'est bon pour le Québec, tant mieux. Si c'est pas bon pour le Québec, on se rend compte. Puis l'histoire démontre que ça, c'est une formule qui fonctionne bien.
Oui, mais c'est pas un peu, c'est pas un peu
très réel.
C'est pas un peu le travail des gouvernements des provinces, justement, de faire valoir les intérêts des différentes provinces auprès du gouvernement fédéral?
Ben, lorsque tu es aussi différent d'une province canadienne que le Québec peut l'être, tu as tout à fait le droit, puis les autres provinces l'auraient aussi, c'est leur affaire, là, d'envoyer ta propre délégation avec un parti singulier qui est juste pour ça à la Chambre des communes. D'ailleurs, l'Ouest l'a déjà fait. Ce ne serait pas la première fois que ça se produirait même à l'extérieur du Québec. Tu choisis qui tu veux, tu choisis qui tu penses qu'il va le mieux représenter tes intérêts, tu l'envoies à Ottawa, et cette fois-ci, la démonstration est faite. Okay. Et je me permets de dire qu'on a accepté les mamours du NPD en 2011, ça ne nous a rien donné. On a accepté les mamours des libéraux en 2015, ça ne nous a rien donné. Puis à l'heure actuelle, on se tiraille. Pourquoi? Parce que la gestion de l'offre au Québec est menacée par le traité de libre-échange avec les États-Unis. On chiale. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 milliards de dollars de payeurs de taxes du Québec, là, pas de l'ensemble du Canada, juste du Québec. C'est 4 milliards de dollars qu'on va envoyer pour le pétrole albertain pour que l'exportation fasse augmenter le prix du baril, avec pour effet qu'on va subventionner le pétrole pour le payer plus cher nous autres même en pompe. C'est un peu farfelu, mais c'est ça présentement le système canadien.
Je sais, M. Blanchette, que vous entamerez pas la prochaine campagne en pensant à la possibilité d'une défaite. Là, on s'entend, quand on se lance là-dedans, dans ce projet-là, c'est parce qu'on croit en nos chances. Mais honnêtement, avec la déconfiture du parti d'un dernier mois, vous aurez pas 3 ou 4 chances de vraiment insuffler l'effet phénix, hein, au bloc québécois. Est-ce que ça fait partie des inquiétudes, ça, la possibilité de finalement pas être capable de donner cette vigueur-là au parti qui agonise un peu selon plusieurs?
Forcément. Alors, je pense qu'il n'y a plus personne de sérieux qui pense que le Bloc est moribond ou que le Bloc est en train d'agoniser. On entendait beaucoup ça à l'automne. Moi, je ne l'entends plus. D'une part, à part ça, oui. Si quelqu'un s'aventure sur le terrain politique sans avoir cette espèce de crainte d'échouer, de ne pas réussir, il ne devrait pas y aller. Parce que cette espèce de crainte de ne pas réussir alors que tu te mets au service des gens, c'est une lourde responsabilité que tu dois faire. Tu dois faire ton possible, tu dois faire le mieux que tu es capable de faire. Et ça, souvent, ça carbure à la crainte de ne pas réussir. Est-ce que je suis confiant? Oui. Est-ce que je me dis que ça se peut que ça se passe pas comme on le souhaite? Assurément, puis il y a des gens qui me le rappellent. Mais ce n'est pas une raison, je crois, pour faire 2 constats. Le premier constat, rapidement, le Bloc a connu ses pires années récemment, ça en était risible. Mm-hmm. Il est passé au travers de ça, il existe toujours, il est réuni, et je l'invente pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je pense que le Bloc est plus cohérent et fort aujourd'hui qu'il l'était après la défaite de 2011, où c'était la panique dans la cabane. Après ça, on prend cette équipe-là, on l'envoie sur le terrain, et le fardeau de la preuve, là, il est sur nous, il est sur moi beaucoup, je le prends, d'aller démontrer aux Québécois qu'on est aussi pertinent que toujours.
Votre plus gros défi personnel, puisque je lisais dans un article du Devoir que vous voulez casser votre image de goon en disant que vous aviez l'impression que tous les médias possédaient une banque d'images baboune de vous. Et l'article du Devoir, d'ailleurs, est flanqué d'une fantastique baboune. C'est ça le plus gros défi, c'est de refaire un peu l'image?
Ben, je dois admettre qu'à l'époque où j'ai complété quelques mises en échec au bénéfice de ma première ministre, je me suis donné cette réputation-là. Puis je l'admets, puis c'est vrai. Puis bon, j'ai eu des débats, je me rappelle, c'était beaucoup avec Pierre Moreau, l'ancien ministre libéral, qui, quand il était dans l'opposition, me traitait d'arrogant, et je lui répondais en disant que je le prenais bien puisque ça venait d'un expert. C'est des choses qui collent un peu, et je pense que les Québécois ne sont pas obligés de voter pour nous. Il faut qu'ils en aient le goût, il faut qu'ils en aient envie. Et ça veut peut-être dire de laisser voir des côtés un peu plus, passez-moi l'anglicisme, soft de ma personnalité. Au 93, ça sera pas très dur parce que les gens m'ont entendu pendant l'été, puis avec M. Boivin, la vérité, c'est qu'on déconnait pas mal. Là. Ouais. Et c'était très sympathique. Puis je pense que je suis plus proche du commentateur politique qui se permet des blagues pas toujours bonne, que je le suis du gros méchant dont on voit la baboune sur le Devoir.
Okay. Ben, moi, Yves-François, voici ce que je pense, puis je vais surfer exactement sur ce que tu viens de dire. Et je te tutoie, oui, contrairement à Paul, parce qu'on se connaît. Puis moi, je crois qu'il y a une réelle opportunité pour toi, pour la raison suivante, qui surfe exactement sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le Bloc québécois, oui, le Bloc québécois, non, blablabla. Bla, bla. Mais en termes de communication, qui est l'élément clé quand vient le temps d'être élu, c'est qu'actuellement, puis je pense que moi, les Québécois votent plus pour une personnalité que pour un politicien. Ça, c'est ma théorie. Actuellement, il y a personne avec ces critères-là en face de Justin Trudeau. Parce que Andrew Scheer, ça collera jamais ici, là. Ça va toujours être le gars qui parle, puis quand il s'en va, on l'a déjà oublié. Ça fait que si tu la joues transparente et personnelle, je pense que tu gagnes plus à faire ça qu'à d'avoir les plus grands débats du monde sur le fond de tes idées. Puis ceci étant dit, pas parce qu'ils sont pas légitimes, parce que je crois que la clé d'avancer pour un maximum pour le Bloc québécois, c'est Yves-François Blanchette, la personne.
Séance pro bono de Marc Bollard.
Ouais, moi, c'est ce que je crois.
Non, mais Marc Bollard, écoute, si on n'est pas en onde, là, je pense que je vais te prendre comme consultant. C'est une spécialité chez toi.
Merci Yves-François Blanchette d'avoir pris du temps pour nous ce matin.
Un grand plaisir, merci beaucoup.
Yves-François Blanchette, chef couronné.